Bien. Oui. Et les enfants, comment ça va? Bon. Et alors, je vous pose la question parce que c'est vrai que et c'est important de se savoir comment on va. Est-ce que votre morale est indexée sur l'actualité? L'actualité dans le monde. Je dis exprès le mot indexé. Hein. Ça veut dire est-ce qu'il dépend de l'actualité? Vous savez, est-ce qu'il dépend de l'actualité qui se passe dans le monde? Si oui, eh bien le moral a des raisons d'être en bas. Avec ce qui se passe, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce par quoi on est passé et on passe encore. Mais nous voilà une semaine après Pâques. Et le texte de ce matin, eh bien, c'est la suite de ce que vous a lu Luc. Pascal, dans l'évangile de Luc, c'est la fin, presque la fin de l'évangile de Luc. Et le texte parle de deux personnes qui sont passées d'une tristesse extrême, morale à zéro, à une joie extrême, indestructible. Il s'agit des deux disciples d'Emmaüs. Et ouvrons nos Bibles dans Luc 24, 13 à 35. C'est la suite donc de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 24, 13 à 35. On va voir donc leur histoire à ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je vais prier. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole, Seigneur, parce que elle nous suffit, en tout cas, elle doit nous suffire, Seigneur, à marcher dans ce monde, Seigneur, avec toi, Seigneur, et avec toute l'espérance qui vient de toi, Seigneur. Nous te demandons de nous ouvrir le cœur et l'intelligence à ta parole, Seigneur, qu'elle fasse toute notre joie, Seigneur, et qu'on marche avec toi, Seigneur. Merci de conduire ces moments, Seigneur. Je m'attends à toi, je m'abandonne à toi. Jésus, en ton nom, amen. Luc 24, 13 à 35. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, vous connaissez certainement cette phrase de Saint-Exupéry. C'est, vous savez, c'est lui qui a écrit Le Petit Prince, un best-seller. Il a dit ceci, il faut croire pour comprendre, Et il a dit, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je trouve que ce texte, ça s'applique très bien à notre texte d'aujourd'hui. Ça résume bien ce texte. Parce que de ce texte, il ressort cette vérité qu'il faut croire pour comprendre et voir. Il faut d'abord croire pour comprendre et pour voir. C'est ce que nous allons voir en trois points. Premièrement, on verra pourquoi croire est plus que connaître et voir. Croire est plus que connaître avec sa tête et voir avec ses yeux. Deuxièmement, j'aborderai quel est l'objet de la foi qui ouvre notre cœur. L'objet de la foi qui ouvre le cœur, pas de n'importe quelle foi. Et troisièmement, parce qu'il manquerait quelque chose, pour ouvrir nos yeux physiques cette fois, il nous faut répondre. Il nous faut répondre à l'Écriture par la foi. Alors c'est ce que je vous propose de voir. Alors, pour situer le contexte, on se situe le jour de la résurrection. La résurrection de Jésus. Les femmes ont trouvé le tombeau vide, ce que Pascal a partagé. Et deux anges leur ont annoncé sa résurrection, ce qu'elles vont répéter aux disciples. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru au tombeau, tout stupéfait de le trouver vide. Et il y avait deux disciples de Jésus qui ne faisaient pas partie des onze, parce qu'ils sont allés les trouver à la fin du texte. Ils ne faisaient pas partie des onze. Et ils font route ensemble vers le village d'Emmaüs. Emmaüs s'est éloigné à peu près de 12 kilomètres de Jérusalem, donc c'est pas à côté. Ils font la route à pied. Ils font la route à pied. 60 stades, ça fait 12 kilomètres. Alors Luc, c'est Luc qui écrit ceci, on reconnaît bien le style de Luc. Luc, il était médecin. C'est lui qui a écrit cet évangile et il n'a pas été un témoin oculaire de la vie de Jésus. Il a fait son enquête très précise, une enquête minutieuse auprès de ceux qui ont été témoins oculaires. Et il a écrit son évangile qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Luc, dans son style, il s'attache aux détails descriptifs. Il est très précis. Et il mentionne la distance de Jérusalem à Emmaüs, 12 kilomètres donc. Il s'attache aux détails descriptifs. Pourquoi ? Comme pour nous dire, comme à Théophile, le destinataire de cette lettre, ce que tu vas lire dans cet évangile, c'est vrai. Tu peux y conformer ta vie, tu peux y baser ta vie, tu peux faire confiance à ce que tu y lis, c'est vrai. Ce sont des faits. Et c'est pour nous encore aujourd'hui. Parce que Dieu a veillé sur sa parole. Alors, deux disciples qui marchent, et qu'est-ce qui se passe ? Jésus, il va s'inviter dans la discussion. Il se présente aux deux disciples et il va prendre l'initiative de s'inviter dans leur conversation. Mais incognito, il ne va pas se faire reconnaître dans un premier temps, de façon visible. Verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus, il entame la discussion, c'est lui qui prend l'initiative, il leur demande « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ?» Alors, étonnant de la part de Jésus, parce qu'il est Dieu, il sait déjà tout, il sait même ce qu'ils vont répondre. Pourtant, il leur pose cette question. Il leur fait remarquer quoi ? Il leur fait remarquer leur tristesse apparente. Et il leur demande pourquoi cette tristesse ? Alors, une telle question ne peut qu'attirer l'attention chez les auditeurs, n'est-ce pas ? Parce qu'une des premières questions que l'on se pose quand on se voit, c'est « Comment vas-tu ? Comment allez-vous » Et puis voilà, on commence la discussion, on échange des nouvelles. C'est une bonne façon d'amorcer la discussion. Surtout que Jésus les a rejoints dans leur état, ils sont tristes. Et quand quelqu'un vous comprend votre tristesse, vous tendez l'oreille. Enfin quelqu'un qui me comprend. Vous vous dites. Et vous, comment allez-vous ce matin avec l'actualité ? Ces menaces de troisième guerre mondiale nucléaire qui effraient, alors que on vient de passer de deux années de pandémie, où on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant, et on n'en est pas encore sorti. Dernièrement, j'ai échangé avec une élève de clarinette, je donne des cours par visioconférence, et le cours est passé, pas à la trappe, mais il a été juste décalé. Cette dame, elle avait un fort besoin de s'ouvrir, elle a des enfants, et elle m'a partagé qu'elle était profondément inquiète de ce qui allait advenir à ses enfants en cas de guerre nucléaire. Elle était angoissée avec ça, quand la guerre a commencé à éclater en Ukraine. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Lors du cours, je l'ai reporté à plus tard et j'en ai profité pour lui annoncer l'évangile. Et là, bien sûr, c'était pas l'heure de cours, c'était pas le moment. Alors, et ça a été mieux après. Nous sommes à l'ère d'Internet. Nous sommes dans une société de l'information. Et quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe, il passerait pour un extraterrestre, un irresponsable, quelqu'un qui ne serait pas au courant de l'actualité. Mais inversement, quelqu'un qui serait accro à son portable pour savoir les dernières nouvelles, un non-croyant, comment ça se passe, alors ça en est où ? Eh bien, il risque de tomber dans une angoisse grandissante. Alors finalement, si la fin est proche, à quoi bon travailler ? À quoi bon fonder une famille ? Attention à vos émotions, et les médias, ils jouent avec nos émotions. Si vous vous fiez à vos émotions, attention parce qu'elles sont trompeuses. Elles sont comme des montagnes russes. Elles dépendent des circonstances. Si vous choisissez de vous y fier, c'est comme être leur esclave. Vous obéissez à vos émotions. Et ça peut vous emmener là où c'est pas bon. Vous perdez votre joie au premier automobiliste qui vous fait une queue de poisson. Finalement, c'est être esclave de ses émotions quand on réagit selon nos émotions. Les disciples, ils étaient tristes. Pourtant, ils auraient dû se réjouir. Pourquoi ? Parce que croire est plus important que de connaître, de savoir et de voir avec ses yeux. Croire est plus important que de connaître et de voir. Les deux disciples, ils étaient au courant de l'actualité. Ils étaient au courant de ce qu'avait fait la une de Jérusalem les jours précédents. Qu'est-ce qui s'était passé ? La crucifixion de Jésus. Et donc, eh bien, ils s'entretenaient de ce qui s'était passé, verset 14. Et certainement qu'ils revenaient de Jérusalem, pour que Jérusalem soit mentionnée. Alors, eh bien, en guise de réponse à la question de Jésus, de quoi vous entretenez-vous en chemin ? Cléopas, l'un des deux, il va lui faire un reproche assez culpabilisant quand même. Lui, bien sûr, il va pas se sentir culpabilisé, mais il va lui faire un reproche. Quel reproche de ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem dernièrement. Verset 18, je le relis. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci » Est-ce qu'on vous a déjà fait ce reproche à votre travail ou ailleurs? Ce reproche de ne pas savoir. Comment? Tu ne sais pas ça? Comment tu ne sais pas ça? Dans ton métier, tu ne sais pas encore ça? Tu n'es pas au courant? Tu es bien le seul. Et c'est culpabilisant, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous êtes senti coupable de ne pas savoir? Et même de ne pas tout savoir? Vous vous étiez senti obligé d'avoir réponse à tout? Vous êtes senti coupable de ne pas être à la hauteur, en quelque sorte? Et vous vous êtes senti diminué par rapport à votre interlocuteur et même impressionné par son savoir? Alors la connaissance, elle est bonne, elle est nécessaire. Et c'est utile et nécessaire de rester informé, surtout à l'ère d'Internet. Mais une question se pose. À l'ère de l'information, dans une société de l'information, est-ce que c'est la connaissance qui va sauver le monde ? Est-ce la connaissance qui sauvera le monde ? On a fait des progrès fulgurants depuis le début du 20e siècle. Eh bien non, la connaissance ne sauve pas. Même si la connaissance a beaucoup augmenté, la connaissance ne sauve pas et elle est incapable de quoi faire, de changer notre cœur. Elle est incapable de changer le cœur de l'homme. Pas plus que la technologie, pas plus que la science, pas plus que la médecine, si tout cela est bon quand c'est bien utilisé et utile. Plus on connaît, plus on risque d'être angoissé. La science a percé les secrets de l'atome. Et qu'est-ce qu'on craint ? Eh bien, la peur d'une guerre nucléaire est bien là, chez certains. Et voici ce que dit le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 18. « Car plus on a de sagesse, plus on a de sujets d'affliction. En augmentant sa connaissance, on augmente ses tourments. » Ce n'est pas la connaissance qui sauvera le monde, même si elle est utile. Les deux disciples d'Emmaüs, ils savaient, ils avaient connaissance des derniers événements, ils étaient parfaitement au courant, et ils étaient tristes. Leurs émotions, ils étaient tristes. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Ils n'ont pas compris pourquoi les chefs religieux ont fait crucifier un homme tel que Jésus. Jésus qui a fait tant de miracles, qui a fait du bien, qui a nourri des foules, qui a enseigné, il n'a jamais fait le moindre mal. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Ils sont tristes et leur espérance terrestre est stoppée. Alors, ils devaient attendre un messie politique, terrestre, pour Israël. Ils avaient même entendu parler de la résurrection par le récit des disciples femmes qui ont vu le tombeau vide. Ce récit qui a été confirmé par les autres disciples. Ils l'ont entendu tout ça. Mais ils étaient tristes. Alors pourquoi cette tristesse? Ils connaissaient l'Écriture. Ils devaient bien la connaître parce qu'ils avaient reconnu en Jésus un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu. Eux-mêmes, de leur propre dire, ont reconnu en Jésus un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ils ont reconnu en Jésus un prophète puissant en œuvre et en parole, précision, devant Dieu, de leur propre dire. Et pourtant, ils étaient tristes. Alors, peut-être vous connaissez bien votre Bible, peut-être vous la lisez chaque jour, ce que je vous souhaite en tout cas, et c'est très bien, mais même comme ça, vous vous sentez triste. Et vous vous dites, un chrétien devrait être toujours joyeux. C'est vrai, mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, pas si facile que ça. Vous n'avez pas de morale. Pourquoi ? Est-ce que vous vous culpabilisez de ne pas connaître assez votre Bible ? Alors j'aimerais vous poser cette question. Quel était votre niveau de connaissance biblique lorsque vous avez entendu pour la première fois l'évangile de votre vie ? Zéro. Peut-être pour la plupart, à moins que vous soyez né dans une famille chrétienne. La première fois que vous avez entendu l'évangile et que vous y avez cru, quel était votre niveau de connaissance biblique ? Et pourtant, lorsque vous avez cru, comment vous étiez ? Est-ce que vous avez connu cette joie de Jésus, connaître que Jésus est mort pour vous et ressuscité ? Tout connaître, c'est pas ça qui va rendre plus heureux, même si, lisez votre Bible, hein, lisez-la de Genèse jusqu'à Apocalypse et relisez-la, hein. Alors, quel est le problème ? Eh bien, Jésus va faire prendre conscience aux deux disciples de leur problème. Quel est-il ? Le problème, c'est pas de tout savoir. Ça, c'est le reproche qu'ils font eux-mêmes à Jésus. Comment tu ne sais pas ça ? Mais quelle ironie ! Regardez le verset 18. « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » Voilà toute l'impression que leur fait la présence de Jésus ressuscité à leur côté. Quelle ironie ! C'est eux qui ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont sous leurs yeux celui de qui ils parlent. Ils s'adressent à celui qui est au centre de leur discussion. Ils l'ont sous leurs yeux et ils l'ont même connu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Non, Jésus leur dit que leur véritable problème, ce n'est pas de tout savoir, ce n'est pas de ne pas être au courant, ils sont au courant. Leur propre problème, c'est d'être lent à croire. Ils sont lents à croire. Et regardez ce qu'ils disent d'eux-mêmes, verset 22. Ils nous ont fort étonnés. Verset 24, on imagine le ton de leur voix. Lui, Jésus, ils ne l'ont point vu. Bon, on a bien entendu ça, mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. C'est clair que ça ne les a pas touchés plus que ça. Ils ne croyaient pas. Voilà le problème à l'origine de leur tristesse. Et Jésus leur reproche leur manque d'intelligence. Parce que la vraie intelligence n'est pas de tout savoir, mais de croire dans ce que dit Dieu. Parce qu'il faut croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. On est dans une société où d'abord on veut voir, on veut comprendre et après on croira. Montre-moi et après je te croirai. Et après je te croirai. Montre-moi Jésus et après je croirai en lui. C'est ce qu'on a entendu quelqu'un dans notre famille le dire. C'est dur d'entendre ça dans sa famille. Mais bien sûr, on prie pour cette personne. Il faut croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Il faut croire pour comprendre que c'est Dieu qui a créé le monde par sa parole à partir de rien. Il faut la foi pour ça. Hébreux 11, verset 3, je vous le cite, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Fin de citation. Alors oui, il faut croire pour voir avec le cœur. Et non pas voir avec les yeux pour croire. Voilà pourquoi les disciples n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne croyaient pas avec leur cœur. Et voilà aussi pourquoi Jésus ne se fait pas reconnaître aux disciples immédiatement. Après tout, Jésus, il aurait pu leur dire, « Mais regardez, c'est moi !» Il n'a pas fait ça, Jésus. Il ne s'est pas fait reconnaître immédiatement. Jésus, il avait une stratégie dont on peut s'inspirer d'ailleurs, pour les toucher, pour les rejoindre. Il va les pousser à parler par des questions. Jésus qui sait déjà tout, il va les questionner. On peut vraiment s'inspirer de cette stratégie quand on parle à des non-chrétiens. à des non-croyants. Pourquoi cette stratégie ? Bien, parce que non seulement il veut qu'ils expriment leurs sentiments, et ça va mieux quand on exprime ses sentiments. Jésus, il les a rejoints là, dans leur point sensible. Ils étaient tristes. Pourquoi êtes-vous tristes ? Ah oui, quelqu'un qui nous comprend. Jésus, il veut les faire parler par ces questions pour qu'ils expriment leurs sentiments, mais aussi pour tester leur foi, pour les amener à croire. Il va les amener à croire par ces questions. Mais à croire, d'accord, mais à croire en quoi ? À croire en qui ? On entend souvent, vous avez déjà entendu l'expression, l'important c'est d'y croire. Vas-y, crois-y un maximum et ça arrivera. Oui, mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? Croire en quoi ? Croire en qui ? Est-ce que c'est pas plus important ? Je peux croire dur comme fer que ma voiture peut rouler sans essence et me le répéter par la méthode Coué. J'y crois. Mais si je fais pas le plein, je serai pas plus avancé. Je risque d'attendre longtemps. Pourquoi ? Parce que l'objet de ma foi est insuffisant. L'objet de ma foi est insuffisant. Aussi, quand vous avez peur de quelque chose, c'est que vous y croyez. Et Job, dans le livre de Job, en Job 3:25, il a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Pourquoi ça lui arrive ? Parce qu'il y croit. Et le diable aussi voudrait qu'on ait la foi. Le diable aussi voudrait qu'on ait la foi, mais la foi en lui. Sauf que croire en lui, c'est croire à ses mensonges, parce qu'il est le père du mensonge. Alors, l'objet des différentes fois peut être réel. L'objet de la foi peut être réel, le diable est réel, la bombe atomique c'est réel. L'objet de ces différentes fois peut être réel, mais il peut être aussi imaginaire. On peut s'imaginer quelque chose alors que ça n'a rien de fondé. Quelque chose qui nous fait peur. Donc ce qui importe, c'est l'objet de notre foi. En quoi, en qui plaçons-nous notre foi, notre confiance ? Ce qui importe, c'est d'avoir notre foi placée au bon endroit, parce que l'objet de notre foi est plus important que notre foi. C'est l'objet de notre foi qui est plus important que notre foi. Parfois, on culpabilise de ne pas avoir assez de foi. Oui, mais si toi, tu as un petit peu de foi, ça suffit. C'est l'objet de ta foi qui compte. Alors justement, voyons, quel est l'objet de la foi ? L'objet de la foi, c'est la foi qui va ouvrir notre cœur. L'objet de la foi qui ouvre notre cœur. En quoi et en qui Jésus voulait-il que les deux disciples d'Emmaüs croient et que nous aussi nous croyons ? Quel est l'objet de la foi que Jésus voulait susciter, Jésus voulait montrer aux disciples ? Eh bien, Jésus ne se fait pas reconnaître immédiatement. Plutôt que de se faire reconnaître immédiatement, avant de leur ouvrir les yeux, Jésus va leur ouvrir le cœur, avant de leur ouvrir les yeux. Comment ? En leur ouvrant ceci. Jésus va ouvrir l'Écriture. Avant d'ouvrir les yeux de leurs yeux physiques, Jésus va ouvrir leur cœur en leur ouvrant l'Écriture. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Et qu'est-ce qui se passe verset 27 ? Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous imaginez ? Une étude biblique faite par Jésus sur toute la Bible. Le livre inspiré par Jésus, c'est Dieu qui en est l'auteur, c'est la parole de Dieu. Et Jésus qui en est le centre. On a envie d'y être. Eh bien, on peut y être, c'est possible. C'est possible. Et on va voir pourquoi on peut y être, c'est possible même aujourd'hui. Voyons comment. Il commence par leur dire qu'il fallait que le Christ soit rejeté par les chefs religieux, qu'il souffre, meure et ressuscite avant d'entrer dans sa gloire. Pourquoi il le fallait ? Parce que les Écritures l'avaient annoncé. Il fallait tout cela parce que les Écritures l'avaient annoncé. Ces choses, les deux disciples les savaient. Elles sont dans l'Ancien Testament. Mais notre Seigneur Jésus les a blâmés pour leur lenteur à y croire. Pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas cru ? On peut se poser la question. Eh bien, ils avaient quand même une difficulté. C'était la croix de Christ qui les empêchait de s'associer pleinement à ce qui s'est passé. La croix de Christ était ce à quoi ils ne pouvaient pas s'associer. Ils ne comprenaient pas pourquoi ces souffrances. Et ils n'avaient pas compris que ces souffrances, elles étaient pour eux, comme elles sont pour nous tous aujourd'hui. Elles ont pour but, les souffrances de Jésus, de nous pardonner, si nous plaçons notre confiance en lui, parce qu'il a porté la punition de nos péchés et des leurs sur la croix et qu'il est ressuscité. Les deux disciples avaient peine à croire que Jésus était ressuscité, jusqu'à un point bien précis. Vous savez lequel ? C'est dans le texte. C'est jusqu'au moment où Jésus leur rappelle que l'Écriture l'avait annoncé. Et ça devrait suffire. L'Écriture le dit, donc tu peux y croire. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a suffi. C'est le déclencheur chez les disciples. Ça a suffi. À ce moment-là, même s'ils n'avaient pas encore reconnu Jésus, ils n'avaient vu en lui qu'un simple promeneur. Mais ils avaient trouvé que sa prédication était puissante. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entendu l'Écriture. C'est d'entendre et de comprendre les Écritures qui les a convaincus. Le prédicateur, rien d'extraordinaire en apparence, mais ils ont entendu l'Écriture. Jésus a réussi à allumer véritablement un feu dans leur cœur. Et eux-mêmes le confirment au verset 32, lorsqu'ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Les Écritures expliquées ont suffi à allumer ce feu dans leur cœur. Est-ce que ce même feu brûle dans nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu ? Même si nous ne voyons pas encore de nos yeux Jésus, il n'est pas encore revenu. Est-ce que ce même feu brûle dans nos cœurs quand on lit sa parole, quand on écoute sa parole ? Jésus en est le centre. Il est la parole incarnée. Sa résurrection, la résurrection de Jésus prouve quoi ? Prouve que l'Écriture dit vrai. Tout ce qu'il y a ici est vrai. Et on peut y baser sa vie tout entière. Alors, question qu'on a tous à se poser. La Bible est-elle votre nourriture quotidienne ? Peut-être que parfois vous oubliez de la lire. Mais dans le meilleur des cas, on mange 3 repas par jour, dans notre société en tout cas. En tout cas pour voilà. Est-ce que vous oubliez de sauter un repas ? C'est vital de lire la Bible, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle est votre nourriture quotidienne ? Peut-être que vous ne lisez que le Nouveau Testament parce que vous trouvez l'Ancien Testament trop compliqué à lire. Mais si vous lisez l'Ancien Testament en vous rappelant, d'après les dires de Jésus, d'après sa parole, que l'Ancien Testament aussi nous parle de Jésus, même s'il n'est pas mentionné explicitement. Si vous cherchez Jésus dans l'Ancien Testament, vous serez mieux à même de le comprendre. Et puis, quand bien même si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Devant des textes, c'est pas trop facile à faire. Eh bien, l'auteur, il est ressuscité. L'auteur, c'est Dieu, Jésus, lui-même, il est ressuscité. On peut demander à l'auteur, quand on n'arrive pas à comprendre ce qu'on lit, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là ?» Et il le fera, comme il a ouvert les yeux de leur cœur à ses deux disciples. Il le fera par son Saint-Esprit. Il est vivant pour le faire. Il est avec nous pour nous l'expliquer, par le Saint-Esprit. Alors voilà, Jésus a réussi sa première étape. Il a réussi à leur ouvrir les yeux de leur cœur. Mais pas encore leurs yeux physiques, ils ne l'ont pas encore reconnu. Alors voyons maintenant qu'est-ce qui manque pour que leurs yeux s'ouvrent. Eh bien c'est là qu'intervient notre part. Parce que pour ouvrir nos yeux, il nous faut répondre à l'Écriture par la foi. Il faut une réponse à l'Écriture. Voyons le troisième point. Pour ouvrir nos yeux, il nous faut répondre à l'Écriture par la foi. Alors Jésus, dans sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à les tester. Pourquoi ? Pour leur donner l'occasion de manifester leur foi. Ils n'ont pas encore eu l'occasion de manifester leur foi. Jésus va leur donner l'occasion. Comment ? Eh bien, il va faire mine de s'en aller. Comme au début, il a feint l'ignorance de quoi vous parliez en chemin alors qu'il le savait très bien. Il va faire mine de s'en aller. Et eux, ils ne savaient pas encore. Et vous avez remarqué, Jésus ne veut pas s'imposer. Il va faire mine de s'en aller. On peut en prendre de la graine pour l'évangélisation. Je vais y revenir après. Eux ne savent pas encore qui il était, mais on ne va pas laisser partir comme ça quelqu'un qui nous explique si bien les Écritures. Alors, en bon disciple, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont exercer l'hospitalité. Ils vont inviter Jésus pour apprendre leur repas chez eux. Et oui, quoi de mieux qu'un bon repas pour faire connaissance ? Il s'en est passé des choses. Jésus était souvent à manger avec ses disciples au cours d'un repas. Et ils vont insister à garder Jésus avec eux. Ils vont insister. Ils ne vont pas dire, oh, si tu veux, viens. Non. Reste avec nous. Et leur hospitalité va payer. Parce que c'est là qu'il va se passer le miracle. Leur hospitalité va payer grandement, richement, puisque c'est là que Jésus va se faire reconnaître, au cours d'un repas. C'est là que les yeux vont s'ouvrir, parce qu'ils auront répondu, justement, à ce qu'ils ont compris. Jésus va se laisser inviter, et il va se laisser reconnaître à leurs yeux pendant ce repas. Vous voyez, Jésus a ouvert leur cœur en leur ouvrant l'Écriture. Et ce n'est que lorsqu'ils ont répondu à l'Écriture, que ce n'est que lorsqu'ils ont ouvert leur maison et leur cœur à Jésus, que là, leurs yeux se sont ouverts et qu'ils ont reconnu Jésus. Ils ont répondu. C'est à ce moment-là que Jésus a ouvert leurs yeux. Alors, vous vous rappelez, Jésus a souvent été à table avec ses disciples, avant la crucifixion et même après. Eh bien, c'est là, au cours d'un repas, qu'il s'est fait reconnaître. Et comment est-ce qu'il s'est fait reconnaître ? Eh bien, en rompant le pain. Ils l'ont déjà vu rompre le pain. Et là, il se passe quelque chose, il y a une inversion des rôles. Jésus était l'invité, il devient l'hôte. En rompant le pain, Jésus accueille les occupants de la maison. Ils l'ont accueilli, Jésus les accueille à leur tour, en rompant le pain. Jésus, par ce geste, n'est plus l'invité, mais il est l'hôte qui accueille. Et l'hôte devient l'invité. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, invitez Jésus dans votre vie. Que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune. Eh bien, invite Jésus dans ta vie, dans la repentance et la foi, reconnaissant que tu as besoin d'un sauveur. Et insiste, dis-lui, reste Seigneur Jésus, et il restera pour toujours dans ta vie. Il t'accueillera à son tour. Parfois, on prend la Sainte Cène en église. Et lorsque nous prenons la Sainte Cène, qu'est-ce que nous faisons ? Eh bien, nous accueillons Jésus. Bien sûr, il est déjà là. Nous manifestons que nous l'accueillons. Au cours du repas, nous accueillons le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ensuite, c'est lui qui nous accueille. Nous sommes dans sa présence, dans la présence divine. On le manifeste, en tout cas, même si on l'est avant. Christ nous a accueillis. Et parce que Christ nous a accueillis, eh bien, l'Écriture nous invite aussi à faire de même. Il nous invite aussi à accueillir l'autre, même s'il ou elle est différente. Ça peut être une simple rencontre, quelqu'un qu'on voit qu'une seule fois. Ça peut aller jusqu'à accueillir quelqu'un pour un repas, jusqu'à exercer l'hospitalité, et il peut se passer de grandes choses. Ce texte aussi nous encourage à rendre grâce. Sans en faire un rite. Mais lorsque nous rendons grâce pour le repas, bien oui, nous manifestons que notre reconnaissance, en nous rappelant que ce que nous avons vient de lui, et même devant des non-chrétiens, même devant de la famille, peut-être vous avez dans vos familles quelqu'un qui ne croit pas, mais lorsque vous êtes chez vous, sous votre toit, je vous invite à rendre grâce, même devant des non-croyants. Alors, on l'a fait. On le fait parfois avec Brigitte. Parfois, ça s'est mal passé. Comment tu veux nous imposer ? Parfois, ça s'est très bien passé. Et puis, en réfléchissant, pourquoi ça s'est mal passé ? Pourquoi ça s'est bien passé ? Au fait, mais, ok, je suis là devant des non-chrétiens. Pour eux, c'est quoi rendre grâce ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et si je leur expliquais pourquoi on rend grâce, avant de rendre grâce ? Et du coup, c'était une magnifique occasion de leur expliquer l'Évangile. Je suis chez moi, on veut manifester notre reconnaissance, nous sommes chrétiens, voilà, nous avons l'habitude de rendre grâce parce que Jésus nous a aimés et par reconnaissance, nous rendons grâce pour tout ce qu'il nous donne. Quelques mots d'explication devant, quand vous le faites pour la première fois. Mais bien sûr, priez avant. Qu'est-ce qui se passe ? Les disciples ont reconnu Jésus. Ça y est, leurs yeux physiques se sont ouverts. Et qu'est-ce qui se passe juste à ce moment-là ? Au moment où ils reconnurent Jésus, Jésus a disparu de devant leurs yeux. Il a disparu. Pourquoi si vite, Seigneur ? Parce que même si Jésus est réellement ressuscité, croire en lui est plus important que de le voir, est plus important que de tout savoir. Peu après, juste peu après, Jésus dira aux disciples, il dira à Thomas, qui n'avait pas cru dans un premier abord, il dira en Jean 20, 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui n'ont cru. » Est-ce que tu fais partie de ces heureux aujourd'hui, qui n'a pas vu Jésus, mais qui a cru dans son évangile? Si tu es là, oui, en tout cas j'espère. Sinon tu es triste. Est-ce que tu es triste ce matin? Eh bien, Jésus te demande, pourquoi es-tu triste? Comme il a demandé à ses disciples. Dis tout à Jésus. Dis-lui tes joies, dis-lui tes peines. Cherche la consolation dans les Écritures qui parlent de lui. Et il te donnera sa joie pour échapper à l'amorosité ambiante. Vous avez remarqué quelle différence chez les disciples entre le début et la fin du récit? Les disciples ne sont plus frustrés. D'accord, Jésus a disparu devant leurs yeux. Mais les disciples sont joyeux. Ils ne sont plus comme au début, même après que Jésus ait disparu devant leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils font? La preuve qu'ils ont changé. Verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. 12 kilomètres, ils viennent de faire 12 kilomètres à pied. La nuit tombe et ils sont tellement heureux dans leur cœur qu'ils vont faire le chemin inverse pour aller le dire aux disciples. Parce que Jésus est vivant. Et dire que Jésus est vivant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré le Seigneur ressuscité. Et ce n'est pas que pour eux. On peut le rencontrer aussi. Même si on ne le voit pas, l'important c'est de croire en lui. Alors, se levant à l'heure même, le mot « lever » ici, il peut être traduit aussi par « ressusciter ». Les disciples ont été ressuscités littéralement. Ils ont vu le Christ ressuscité, eux-mêmes ont été ressuscités. Ils se sont levés pour aller dire aux autres que Jésus est ressuscité. Alors, face à ce qu'ils ont vécu, les disciples, ils ne pouvaient pas garder le silence. Et c'est tellement important aussi pour nous, Église, de partager ce que le Seigneur fait dans notre vie. Les réunions d'Église sont faites pour ça. Les réunions de prière, le culte, où on peut partager qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, parce qu'on s'encourage comme ça. Les disciples, ils ne pouvaient pas garder pour eux ce qu'ils avaient compris. Ne nous privons pas des réunions de prière, des études bibliques, du culte. Ça, c'est pour nous. Et quant aux non-chrétiens qu'on côtoie, que vous côtoyez dans votre travail, ceux qui sont tristes, famille ou collègues, qui sont sans espérance, qui sont sans Dieu, eh bien, c'est vrai que la nuit spirituelle tombe sur notre monde. Le soir approche. Mais est-ce que votre cœur brûle pour aller leur annoncer l'Évangile, pour aller leur dire que Jésus est mort pour eux aussi et ressuscité pour eux? Dans ce texte-là, on a beaucoup à en retirer comme pédagogie pour parler de Jésus. Dans ce texte, Jésus ne s'est pas imposé. Il est allé les rejoindre, mais il ne s'est pas imposé. Il leur a posé des questions. Et il les a amenés de là où il a voulu. Comment? En utilisant l'Écriture. Faisons de même. Il est bon de connaître par cœur des versets bibliques, quelques versets de base, quelques versets comme Jean 3, 16 et, ou autres. Faisons comme lui. Et on peut être sûr, d'après ce texte, que lorsqu'on parle de Jésus, il est là avec nous. Jésus est là où on parle de lui. Ce qui s'est passé avec les disciples, les deux disciples s'entretenaient entre eux de Jésus. Jésus est venu. Il est là, il est ressuscité. Et il le dit lui-même dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors si la personne à qui vous témoignez vous accueille, si elle vous écoute déjà, la personne qui vous écoute, elle accueille l'Écriture. Et par là même, elle accueille Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Dieu qui l'accueille en retour, pour la sauver. Il faut croire pour voir. Voilà, la semaine qui s'ouvre à nous, avec prochain président, ou peut-être, on ne sait pas, présidente, ou on ne sait pas, on attend. Et en tout cas, comment va se manifester votre foi cette semaine? Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés, Seigneur. Tu veux tellement, Seigneur, qu'on te voit agir dans nos vies. Tu nous aimes tant, Seigneur. Alors donne-nous de ne pas passer à côté, Seigneur, de tous tes bienfaits, Seigneur. Et même lorsque nous sommes tristes, même lorsque les circonstances sont défavorables, Seigneur, ne nous permet pas de passer à côté, Seigneur, de ta présence, parce que tu es là, Seigneur, tu es là tout le temps, tu es vivant. Seigneur, que nos paroles, Seigneur, témoignent de toi. C'est vrai que parfois on est bien maladroit, mais Seigneur, l'important c'est de faire ce que tu dis. Et toi tu feras le reste, Seigneur. Tu nous précèdes en toutes choses, Seigneur. Nous te demandons de bénir les jours qui viennent, Seigneur, et de nous accompagner chacun dans notre quotidien, dans nos œuvres, et de nous conduire dans ces œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Merci de nous aider à voir avec notre cœur, Seigneur, ta parole. Et garde-nous, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.